Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Quand j'ai lu votre chronique ce matin, le lancement de la chronique, je pensais que vous nous preniez pour un imbécile un peu ce matin.
Je ne me permettrai pas ni pour vous ni pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai pensé que
on va expliquer
un petit développement.
Je vous dis cette question. Pourriez-vous nous rappeler, Alain, la différence entre un légume et un fruit?
Alors ceux qui nous écoutent, effectivement, on confirme, il nous prend pour un imbécile. Eh bien, pas du tout, parce qu'écoutez bien.
C'est plus compliqué que ça.
Moi, j'ai pris le dictionnaire et le Larousse dit « Un légume est une plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines et, le Larousse d'ajouter, partie consommée de cette plante. J'ai ensuite ouvert à la lettre F, fruit. Et toujours d'après ce dictionnaire, on apprend que le fruit est un organe végétal issu du développement de l'ovaire et qui, à maturité, contient les graines. Alors, pour faire simple, un fruit est tout simplement né d'une fleur. Et en vous disant ça, je pense vous rappeler de Félix Leclerc qui avait des chansons merveilleuses.
Canadien.
Il écrit en 1961 « Chaque pomme est une fleur » qui a connu l'amour.
Bon, comme toujours, de bien avoir quelques exceptions.
Eh bien oui, la plus connue étant la figue, qui n'est donc pas botaniquement un fruit, mais un faux fruit. Ce qui explique pourquoi, Karine, vous n'avez jamais vu, je dis bien jamais vu, de figuier en fleurs. Parce que les fleurs sont dans le fruit, tout simplement, en admettant que ce soit un fruit, c'est en fait une poche. La fraise aussi est un faux fruit, qui, bien que né d'une fleur, produit des graines non contenues dans l'ovaire, mais placées à l'extérieur. On les voit bien d'ailleurs, quand on voit la fraise, on voit bien toutes les petites graines. Alors, les fruits vrais sont donc les pommes, poires, tomates ou raisins, ou encore potirons, courgettes, concombres ou haricots qui, s'ils sont en cuisine considérés
comme
des légumes, sont en botanique des fruits.
Alors d'après ce raisonnement, si je vous suis bien, il est permis de penser que le yucca est un légume.
Certains sont en train de se dire à l'instant même où je vous parle, ce type est devenu dingue. Le yucca, nous le savons tous, est une plante aux longues feuilles que l'on trouve souvent près des dunes du littoral atlantique. Ses fruits peuvent être mangés, et oui, c'est pas terrible, mais ils peuvent l'être mangés.
Tout ça ressemble à quoi un fruit de yucca, pardonnez-moi?
C'est une sorte de date un peu séchée, c'est assez particulier, c'est pas terrible très honnêtement. Par contre, ses racines, elles, sont consommées dans nombre de pays, à condition, bien sûr, qu'elle soit cuite. Et donc, on cultive dans certains pays le yucca pour les racines. Il est donc considéré comme un arbuste pour ses qualités ornementales. Mais si j'en crois le Larousse, il est aussi, en certaines circonstances, un légume.
Allez, il est temps de passer à vos conseils et vos réponses aux questions des auditrices et des auditeurs d'Inter. On commence avec Linda. Les arbres fruitiers de mes parents, dit-elle, donnent des fruits avec des vers. Alors, ce sont des pommiers ou des pruniers. Est-ce que vous avez une solution?
Si ma mémé était encore de ce monde, elle dirait le couteau. Et oui, elle avait un verger merveilleux. Quand on ouvrait le fruit, il y avait des vers. On les retirait tout simplement avec le couteau. Et les fruits étaient délicieux. Mais c'est une autre époque.
On n'ose plus manger ça maintenant.
Je le fais, mais bon, c'est
Et puis ça abîme le fruit, donc après quand on veut le mettre sur une tarte, c'est pas extraordinaire.
Vous avez raison, puis d'autant plus que si vous ne cueillez pas le fruit à temps, la petite bestiole à l'intérieur risque de détruire le fruit dans sa totalité. Alors il y a plusieurs techniques, la première écolo bien entendu, faire revenir les oiseaux bien entendu. Mettre également des petits morceaux de papier collant, de tue-mouche, au pied du végétal pour que les petites mouches qui viennent pondre se collent dessus. Attention, nous ici nous aimons les oiseaux, faites en sorte que les oiseaux ne risquent pas de se coller. Et puis sinon il y a le bon vieux piège à faire. C'est le piège à Carpocaps. En fait, ce sont des perturbateurs sexuels. Je ne plaisante pas. La petite mouche qui vient, elle est attirée parce qu'on a mis un gaz, une sorte de gaz, de substance qui fait croire qu'il y a une femelle ou un mâle dans le coin. Elle est complètement affolée, sauf qu'elle trouve un personnage du même sexe qu'elle et elle s'épuise et elle meurt. Et quand on est perturbé sexuellement, on ne se reproduit pas. Donc les pièges à Carpocaps, et on les trouve dans toutes les bonnes jardineries. Voilà donc les solutions que je préconise pour ne plus qu'il y ait d'asticots dans les pommes, les poires et les pêches.
Et des Scooby-Doo non plus. Pauline, nous avons un saule pleureur dont le tronc s'est divisé en deux. Il continue de pousser malgré tout. Mon père soutient qu'il peut se fendre cet arbre, qu'il peut se fendre en deux à cause de son propre poids. Mais en vous écoutant religieusement Alain Baraton, je ne le crois pas.
Alors, on va être simple. Il est vrai que les arbres sont extraordinaires. Vous prenez des vieux chênes qui ont des branches, mais des poutres incroyables qui tiennent. On se demande comment sont-elles fixées sur le tronc pour porter autant de bois avec autant de portée. Il n'y a pas de rivet, il n'y a rien du tout, et pourtant ça tient. Mais il est vrai que certaines plantes, avec l'âge, peuvent se fatiguer avec le poids de l'eau, avec le poids de la neige, avec le vent. Donc oui, je confirme que quand un saule pleureur part sur deux troncs, avec les années, il peut malheureusement se fendre, parce que le saule pleureur, en temps normal, part d'un seul tronc et ensuite il développe un houppier. Donc là,
mais c'est pas grave. Ça lui permet pas de.
C'est l'occasion peut-être de le béquiller. Béquiller, c'est simplement rajouter et ben dessous deux tuteurs qui vont maintenir les principales parties du tronc pour éviter qu'il ne se fende.
Allez, on va terminer avec un dernier conseil pour le week-end.
Allez, direction la Seine-Maritime à Varengeville-sur-Mer. C'est une cité que j'aime beaucoup, une ville que j'aime beaucoup. Ce sont les botaniques de Varengeville-sur-Mer. L'occasion de découvrir quantité de jardins aujourd'hui ouverts au public. À 15h, par exemple, d'assister à la conférence de mon ami Pierre Nussmann, qui est un très très grand professionnel en horticulture. Donc Varengeville-sur-Mer, Seine-Maritime, c'est aujourd'hui et demain.
Merci bien Alain Baraton, jardinier de Versailles.
Et à demain.
À demain. Il est 8h moins 10 sur Inter.